Bienvenue à toutes et à tous. L'église Hosanna ainsi que toute son équipe a le plaisir de vous accueillir. Nous espérons que vous passerez un agréable moment à l'écoute de ce message audio présenté par le pasteur Bruno Picard. L'ensemble de l'équipe vous remercie de votre visite et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute.
Alléluia! Amen, 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 amen. Dieu est bon. Il y a une présence du roi des rois ce soir en ce lieu. Pour ceux et celles qui sont là pour la première fois, on appelle ça de la louange prophétique spontanée. Rien n'a été planifié. À part les chants de louange, tout le reste a été spontané parce que Dieu voulait parler ce soir. Amen. Et je vous encourage à faire ça souvent. Église, chez vous, commencez à chanter le chant que Dieu a. Et qu'on peut peut-être fermer cette porte-là, Stéphane, pour ce merveilleux couple qui a chaud. Voilà, ou ses amis en tout cas, merci. Voilà. Ça va mieux comme ça ? Vous êtes bronzé sinon. Je suis extrêmement honoré d'être votre pasteur parce que vous êtes une église extraordinaire. Vous savez, très peu d'églises vivent ce que nous vivons ici. Je ne dis pas ça pour être orgueilleux ou pour être meilleur, pas du tout, mais je dis ça pour que vous puissiez vous rendre compte qu'on est béni. On est béni de pouvoir vivre ce que nous vivons ici. The Catch, je vous amènerai dans une autre église. Aucune critique. Moi, je suis extrêmement béni, heureux de savoir que on peut dans l'église ici vivre ce que Dieu a pour nous. Regarde ton voisin et dis, je suis fier de te connaître. La raison pour laquelle je fais souvent ça à l'église, c'est parce que je sais que dans la semaine, vous ne faites pas souvent ça. En France, à La Réunion, on a peur de dire « Je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur ». C'est vrai que moi aussi, j'ai du mal quand un frère, la dernière fois, j'étais au centre commercial, il me fait « Mon pasteur, je t'aime mon frère !» Tout le monde m'a regardé comme ça, moi j'ai fait « Moi aussi, je t'aime mon frère !» Mais c'est bon de voir que Dieu nous aime, amen. Je ne sais pas du tout où on est là, à La Réunion. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans la parole de Dieu. Et je vais essayer d'être bref ce soir. Est-ce que j'ai un timing sur le... Ok. On va mettre 25 minutes. Tout le monde dit les portiers de ma destinée. Le portier ou les portiers de ma destinée. Qu'est-ce qu'un portier ? Enfin, c'est fort. Quelqu'un qui ouvre une porte. Exact. Quand tu arrives dans un grand hôtel... au Ritz, au Fritz, au Mitz, au Titz, tous les Titz de La Réunion, de France. T'as un gars comme ça qui est bien habillé, bien sapé, avec un costard. Il t'arrive et il t'ouvre la porte. Et parfois, dans les restaurants, si t'as pas réservé, que t'es pas invité ou que t'es pas de la même classe sociale, que t'as pas d'argent, et bien ils te font « Oh, vous n'êtes pas sur la liste, pas question. » Et tu n'entres pas. Un portier... Dans le monde que nous connaissons, c'est quelqu'un qui ouvre des portes, oui ou non? Ce soir, je vais vous introduire au portier de votre destinée. Les hommes et les femmes que Dieu a placés dans votre vie, qui eux seuls sont capables de vous donner accès à votre destinée. Oh là, vous avez le droit de réagir. 1 Corinthiens 1, 27 nous dit, 1 Corinthiens 1, 27. Paul parle et il dit... Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est pour ça que je suis là. Un portier, je vais donner quelques caractéristiques du portier spirituel. Un portier, c'est une personne à qui Dieu a donné la mission de t'ouvrir une porte sur ta destinée. Je répète, un portier, c'est une personne que Dieu a choisie. Pas toi, pas moi. Dieu a choisi cette personne ou ces personnes dans ta vie et leur mission, c'est de t'ouvrir une porte sur ta destinée. En d'autres termes, sur le chemin de ta destinée, ils veulent t'ouvrir les portes pour la prochaine saison. Tu me suis ? Un portier, c'est quelqu'un qui est connecté à quelqu'un d'autre. Qui va t'aider à grandir. Un portier, c'est quelqu'un qui te donne de bons conseils, qui te dit la bonne chose au bon moment. Le portier spirituel de ta destinée, c'est quelqu'un qui va te donner un conseil en te disant « fais pas ci, fais pas ça ». Quelqu'un qui a la bonne parole au bon moment, quelqu'un qui est bien placé au bon moment, quelqu'un qui va savoir quoi dire et quoi faire. Mais le problème avec les portiers de la destinée, c'est qu'ils sont déguisés. Le grand problème, c'est que les portiers de ma destinée, ils n'ont pas d'étiquette sur leur front écrit « Je suis le portier de ta destinée ». Ça aurait été super facile. Et je suis convaincu en ce moment que les chrétiens dans le monde entier freinent leur croissance spirituelle. Écoutez bien ça, ils freinent, nous freinons notre croissance spirituelle et notre progression spirituelle, notre impact, parce que nous ne savons pas reconnaître les portiers spirituels. Et ce soir, qui a envie de savoir comment reconnaître les portiers spirituels? Qui veut ça? D'accord. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous ne pouvez pas. Ça sera quoi le message? Vous ne pouvez pas reconnaître dès le premier jour, à moins d'être extrêmement prophétique, vous ne parvenez pas tout le temps à reconnaître votre portier. C'est pour ça que Dieu l'a déguisé. Il ne veut pas que vous puissiez les reconnaître. Et ce soir, j'ai partagé un passage, un principe spirituel très puissant, pas facile à capter. Il paraît simple, mais il est profond à capter. Donc ouvrez grand vos oreilles spirituelles. Écoutez attentivement. Le portier de ta destinée n'est pas là par accident. Il n'est pas placé là par hasard, il est placé par Dieu. Tout le monde dit par Dieu. Il est placé par Dieu. C'est Dieu qui organise la rencontre entre moi et mon portier. Il déguise le portier et il ne te dit pas que c'est un portier. Mais un portier, c'est quelqu'un qui est là dans ta vie. Le portier n'est pas forcément ton grand patron. C'est plutôt le préposé au courrier. Le portier n'est pas forcément le pilote de ligne que tu connais si bien. Le portier, c'est peut-être la personne qui nettoie l'avion. Le portier n'est pas forcément l'entraîneur de l'équipe de foot, mais la femme qui repasse les maillots. Ouh, de quoi je parle? Qui dit où le pasteur là? La plupart des gens, nous cherchons à nous connecter aux grands de ce monde, pensant que c'est eux les portiers de notre destinée. Mais dans la parole de Dieu, Dieu nous connecte toujours aux petites personnes. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité, soit de respect. Dieu ouvre toujours la porte de la destinée des autres, non pas avec seulement des grands de ce monde. Il choisit les petits, ceux et celles que nous choisissons d'ignorer. Alors comment faire pour être sûr de ne pas rater le portier de ma destinée? Très simple ce soir, un principe profond et puissant. Considère toutes les personnes que tu rencontres comme les portiers de ta destinée. Parce que parmi eux, il y a forcément quelqu'un qui est un portier pour ta destinée. Dieu agit ainsi parce qu'il veut que vous et moi, nous puissions toujours regarder les autres avec respect, honneur, dignité, amour. Ne jamais se croire supérieur, ne jamais se croire au-dessus, ne jamais mépriser en disant « Ah, tu sais, lui, c'est... Pff, bon, elle, c'est ma secrétaire, tu sais... Pff, elle est sympa, mais lui, c'est le pasteur. Oh, alors, tu sais, elle est... Je sais pas, lui, il fait les poubelles, mais lui, il est docteur. Dieu déguise les portiers de ma destinée. Et il se cache derrière des hommes et des femmes qui me semblent insignifiantes. On m'écoute ce soir, c'est important, frère et sœur. Je vais vous donner une clé prophétique qui va vous aider à vivre une vie différente. Je vis ça en ce moment tous les jours et je me suis rendu compte depuis 2 ans que toutes les personnes qui m'ont ouvert des portes de folie n'étaient pas au départ les gens qui avaient le grand titre ou les grands grades. C'est des hommes et des femmes qui étaient tout petits aux yeux du monde, qui étaient presque insignifiants, presque oubliés de la société, et c'est eux qui avaient les connexions. Un jour, je reçois un coup de téléphone d'un homme. Écoutez bien ça. C'était l'époque où il y avait encore les téléphones sans les cadrans, on pouvait pas voir qui appelait. C'était une journée où j'ai vraiment pas envie de parler. Ça vous arrive, ça, vous? Pas envie de parler, le téléphone sonne. Aujourd'hui, il y a le téléphone qui s'affiche, il y a même la photo du gars. Et tu fais, ah non, pas lui, vibreur. Ok, vous ne faites pas ça, je sais. Certains le font. Et ce jour-là, j'ai pas envie de parler, le téléphone sonne. Et le téléphone sonne, et je prends le téléphone, et j'entends la voix d'un homme que j'aime de l'amour de Dieu, mais que je n'apprécie pas du tout. J'aime pas le gars. Vous arrivez, vous, de... Non ? Vous aimez tout le monde de la même façon ? Ah bon ? J'aime le gars, l'amour de Dieu. Il faut prier pour lui, avec lui, pas de problème. Mais il faut vraiment que Dieu m'envoie. J'apprécie pas le gars. Et là, je fais... Allez, pourquoi j'ai décroché ce téléphone-là ? Purée de patates, de pommes de terre rose. Et là, quand ça me parlait, « Ouais, salut Bruno, tu vas bien ?» Comme si on était copains. Je fais « Ouais, ça va. Que puis-je pour toi ?» Je suis dans ma maman. Je fais « Je suis sûr qu'elle m'a demandé un truc, là. »« Tu sais, en fait, voilà, il y a un groupe de musique, de rock à La Réunion, et ils sont très nombreux, et on a besoin d'un coup de main pour pouvoir s'occuper d'eux. Et il me faut des gars comme toi qui puissent parler un peu anglais, qui puissent faire un peu le taxi aussi, tu vois, les emmener visiter un peu la Réunion, parce qu'ils sont très nombreux. Et franchement, j'ai pas assez de moyens pour tous les prendre. » Je fais « Quand ?»« Ben là, cet après-midi, là, ils sont à Saint-Gilles. » Mais en fait, je te dis ça parce que j'ai déjà tout organisé. Tout est fait, tout est prêt. Ils t'attendent. Merci, au revoir. Là, si tu étais devant moi, je leur étrangle les gars. Je dis, purée, c'est impossible. Je fais, ok, je vais y aller quand même, je vais y aller. J'arrive à l'hôtel de Saint-Gilles. Et parmi les trois bonhommes dont je devais m'occuper, l'un d'entre eux s'appelait Gabriel Alonso. Mon point, c'est que j'aurais pu... mépriser ou ignorer en disant je n'ai pas le temps, au revoir, avant qu'il finisse, et je n'ai pas eu le temps de penser à ça par la grâce de Dieu. Ce portier là, ce gars là était un portier de ma destinée, puisque Gabriel et moi maintenant sommes amis, et grâce à Gabriel il m'a beaucoup aidé pour passer les moments difficiles de ma vie de ministère. Un coup de téléphone, un gars que je pense être insignifiant, presque, excuse-moi du peu, inutile dans ma vie. On pense parfois comme ça et on dit laisse tomber, et lui était celui que Dieu a choisi, déguisé en ange de lumière. Plus tard, dans ma vie chrétienne, je ne sais plus si en Afrique ou en France, je ne sais plus où j'étais, mais j'étais avec mon père et quelques frères. Et on rentre dans une église, et on arrive au palier, sur le palier, à l'entrée de l'église, et il y a le pasteur qui nous voit de loin et qui nous fait... Venez, venez. Et puis il envoie son escadre, son escadrille, son escadron de placiers. Comment ça, des placiers Hein, les gars qui placent sur les chaises, là. Des placeurs de chaises. Des chaiseurs. On appelle ça des chaiseurs. Et les gars viennent nous prendre. Ils disent, venez, venez, approchez-vous. Et sur la rangée, il y a écrit, je crois que c'est pasteur ou leader ou pasteur Bruno, je ne sais plus très bien, et son équipe. Donc j'arrive comme ça et je vais prendre place. Et le gars me fait, mais monsieur, voyons, jeune homme. Et c'est la place au pasteur, monsieur Picard. Et il parle à mon père. Et place mon père à ma place. Il ne sait pas que mon père n'est pas pasteur. C'est moi le pasteur, mais quand j'étais vachement jeune, plus jeune qu'aujourd'hui, il a confondu, il a dit « Non, mais jeune homme, un peu de respect, voyons, ça, c'est... regarde, c'est écrit pasteur ici. » Je suis « Ok, je m'assois à côté exprès, tu vois. » Et papa, lui, il dit rien, il s'assoit. Et il est tout content. Il dit « C'est pas grave, pour une fois. » Puis je suis là, je fais « Purée de patate. » À la fin de la soirée, le gars vient voir mon père et il fait « Pasteur Picard, alors comment ça va ?» et tout ça. Papa, il comprend pas grand-chose, il fait « Non, mais c'est lui le pasteur. »« Ah bon, pardon, le gars, rouge, vert, rose, pardon monsieur, je m'excuse, tout. » Ne juge jamais une personne selon son apparence, il y a peut-être un portier déguisé. Ne jette pas quelqu'un parce que tu penses que peut-être le gars te prend la tête, mais peut-être que c'est lui que Dieu a choisi pour amener le miracle dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Mon père s'est assis tranquille. Traite. Le but de ce soir, c'est que nous commencions en tant qu'Église à considérer, traiter chaque homme, chaque femme comme des portiers de notre destinée. Vous allez voir pourquoi c'est extrêmement important ce soir, extrêmement important. Je suis toujours étonné de voir comment Dieu se sert des hommes et des femmes dont moi, je ne me servirai jamais. Je dis, Seigneur, si moi j'étais toi, je ne serais pas pasteur. Lui non plus, elle non plus, lui non plus, lui non plus, il n'y aurait pas d'église. J'ai pas le temps, Seigneur. Et lui, il est différent. Il choisit des hommes et des femmes différentes. Un jour, un camionneur prend son grand semi-remorque, le charge à ras bord, il y a des choses qui dépassent. Il arrive devant un tunnel, et voit le tunnel, et dit, bon, pff, ça passe. Et il accélère, et ce qui devait arriver, arriva, t'entends, comme ça, le gars était bloqué, la remorque, dans le tunnel. Tout le truc qui dépasse, c'est cuit. Il manque un petit peu, il manque pas grand chose, il manque juste ça. Mais c'est, s'il le fait arrière, il défonce tout, quoi. Donc il est cuit, il fait mince, là je suis cuit. Ou bien j'accélère à fond et je traverse le tunnel, qui est pas très long, mais malgré tout, ça va vraiment. Et si je fais arrière, c'est pire. Et pendant 2 heures, les gars sont là, ils ne savent pas quoi faire, ils regardent le camion, le tunnel, on met quoi, dynamite, on casse le truc. Et puis il y a papa qui arrive avec son petit garçon dans une voiture. Il se gare à côté, il descend de la ville, le petit garçon est assis à côté. Papa qui dit « Bonjour, on peut vous aider ?» Il dit « Ça m'étonnerait, hein, parce que ça, c'est mes remorques, il est bloqué, on ne sait pas quoi faire. » Petit garçon qui a 10 ans, il fait « Eh bien moi j'ai une idée, gaffe. » Ouais, c'est ça petit, c'est quoi ?« Eh bien si tu dégonfles les pneus arrière, ça va descendre. » Gaffe. Mince. Ils ont essayé, les pneus arrière sont dégonflés, la remorque a descendu juste ce qu'il fallait pour sortir le camion du tunnel. Ouh. Le portier est déguisé en petit garçon de 10 ans qui débarque avec la solution pour la journée. Waouh. Ne juge pas trop vite. Ne juge pas trop tôt. La bonne nouvelle, c'est que si tu comprends ce message ce soir, tu auras dans ton cœur cette joie. Parce que si tu te crois être insignifiant, eh ben tu es qualifié. Si tu crois être petit, nul, naze, tu fais « je suis nul, je suis naze, je ne vaux rien », je fais « ouais, voilà, bienvenue au club, viens ». Le problème avec Dieu, c'est quand tu veux pas... Si tu dis « je suis trop fort », il te fait banquer, viens, entraîne ensemble. Si tu dis « je suis trop nul », il te dit « ok, viens, entraîne ensemble ». Dans les deux cas, il change ton cœur. Fort ou faible, pour lui, ça n'a aucune valeur. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Mais nous, on dit « je suis trop nul, je suis insignifiant, je suis naze, je ne vaux rien ». Mais si tu es petit, tu es donc qualifié pour faire le plan de Dieu. Fini par un passage simple ce soir, 2 Rois 5. 2 Rois 5, verset 1 nous dit. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. C'est une grande considération car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme était fort, vaillant, mais il était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Verset 7, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Mais suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y aura un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire, « Par un messager, un serviteur, va, et lave-toi cette fois dans le Jourdain, et ta chair reviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi et se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et ils s'en retournaient et partent avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, c'est le prophète, tu demandes quelque chose de difficile. Ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi, tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain. Selon la parole, l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune homme, d'un enfant, et il fut pur. Non, remarquez une chose très simple. 3 fois de suite, ce sont des personnes insignifiantes qui ont ouvert à Naaman la porte de la guérison. 3 serviteurs. Une petite fille, une petite servante qui dit « Mon maître peut être guéri. » Bam, premier portier ou portière. Plus tard, il arrive devant Élisée et il envoie son serviteur, deuxième portier. À la fin, il est en colère, il furax, il est en fureur. Et son serviteur dit « Maître, mais vas-y, fais-le. Après tout, tu n'as rien à perdre. » Troisième portier. Aujourd'hui, quand je priais, Dieu m'a rappelé une histoire qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il y a environ 10 ans en arrière, un peu moins, 8 ans en arrière, j'étais dans une église. Pas ici. Quelque part dans le monde. Un jeune gars est venu me voir et m'a dit, « Salut, je m'appelle Bip. Est-ce que tu aimerais qu'on soit amis, qu'on discute, qu'on parle, tout ça, pour le futur ? Et là, dans mon orgueil, ma bêtise, j'étais pas à l'ouest, j'étais au sud-ouest. Et là, je dis, mais pour qui il se prend, ce gars ? Il n'est même pas pasteur. Moi, je suis pasteur, hallelujah. Moi, je me connecte qu'au pasteur. Pasteur avec pasteur, lâche pas ton chouin avec serviette. Et je suis là, dans mon cœur, je réagis pas très bien, mais je me rends compte, mais je dis, ah, pour qui il se prend, lui ? N'importe quoi. Et je m'en vais, je quitte la conférence et je m'en vais. Ça me travaille. Je demande pardon à Dieu, j'envoie un email au gars et je demande pardon aussi parce que j'étais un peu rude et je demande pardon à Dieu et Dieu me pardonne et je me repens et j'avance. 6 ans plus tard, je pense à lui, je fais, ah, je vais googler son nom, du verbe googler. Je google son nom et je vois des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages, de messages, de liens. Le gars est connecté avec la Terre entière, plus Mars et Jupiter. Et là, Dieu me dit, tu vois, ce gars-là était un portier. Tu aurais pu être connecté avec des hommes et des femmes de Dieu beaucoup plus tôt dans ta vie. Et tu as retardé ces connexions-là de plus de 5 ans, 6 ans. La bonne nouvelle, c'est que si tu rates une porte, tu t'en prends une autre. Par la grâce de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, par sa compassion, sa grâce, quand tu demandes pardon à Dieu, il s'arrange pour qu'il y ait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Mais mon point ce soir, mon message est très simple, je le reconnais. En ce moment, je sens que l'Église a besoin de messages très très simples, basiques sur les relations humaines. Parce que ça, c'est une des choses les plus importantes. La Bible le dit dans Matthieu 22, « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est ça qui définit la maturité de la vie chrétienne. Est-ce que j'aime mon prochain ? Et vous savez, je choisis mes amis, mais Dieu choisit le prochain. Mon père, c'est un prochain. J'ai pas choisi mon père. Ma sœur, c'est une prochaine. J'ai pas choisi ma sœur. C'est Dieu qui choisit les prochains dans notre vie. C'est pour ça qu'il dit, c'est ton prochain. Ton prochain quoi ? Celui envers qui tu dois exercer le cœur de Dieu. Celui envers qui tu dois être l'évidence de l'existence de Dieu. Celui envers laquelle ou lequel tu dois être prêt à partager la vie de Dieu. Le prochain, c'est celui qui attend le prochain toucher de Dieu de ta part. Tu choisis tes amis, mais tu ne choisis pas tes prochains. Ils débarquent sans invitation. Le prochain, c'est ton patron, ta directrice d'école, ton prof. Il y a des moments, j'étais dans une école, je vais taire le nom, dans une école, et j'ai vraiment pas accroché avec la directrice. J'ai vraiment pas. C'était plutôt Bruce Lee contre Jean-Claude Van Damme. C'était plutôt ça, quoi. C'était dur. Et Dieu me dit, attends. Qui est censé être le chrétien ? Là, je fais, je sais pas. C'est à moi que tu parles ? Seigneur, c'est à moi que tu parles ? Mais c'est toi qui dois être l'évidence de mon existence. Si elle t'énerve, et là il me sort Steph, le verset que toi et moi on adore en ce moment, que ta douceur soit connue de tous les hommes. Oh, il y a des passages comme ça pour Steph, Alain, Johnny et moi, et Jim, qui sont durs à avaler. Hein. Que ta douceur soit connue de tous les hommes, Jim. Un jour je prie pour ma femme, et j'ai, franchement, littéralement, je dis, Seigneur, donne-moi un conseil. Comment pourrais-je faire pour être un meilleur mari pour elle ? Là, il m'envoie, Dieu me parle, il me dit, va lire, je sais plus quel proverbe un tel, j'ai oublié le proverbe, je le trouverai pour vous prochainement. Proverbe un tel, et je tombe sur le proverbe, et la Bible dit, le charme d'un homme, c'est sa douceur. Là, j'ai fait, c'est pas de Dieu, ça. Je regarde ma Bible, j'ai fait, c'est ma vraie Bible, ça, c'est le diacol, ce verset là-dedans, la colle du verset là-dedans. Le charme d'un homme, c'est sa douceur. C'est la bonté de Dieu, écoutez bien ça, qui emmène un homme à la repentance. Ce n'est pas les règles, ce n'est pas les lois. Et quand on commence à comprendre ce principe-là, écoutez bien ça, les hommes et les femmes insignifiants pour nous, à nos yeux. Ah mais moi je suis directeur, t'es qu'une secrétaire. Non. Ouais Bruno, tu sais, je veux être ton ami. Mais pour qui je prends, lui? N'importe quoi. Pasteur? Eh ben non, suivant. Manque de peau, c'était lui, la clé. Les pasteurs avec lesquels j'ai conversé, discuté, dîné, mangé, on a échangé les cartes. Aucun des pasteurs de la conférence de l'époque m'ont rappelé de leur vie entière. Ce gars-là était la clé. Un portier déguisé en un simple jeune homme qui était chargé de ranger les chaises. Mais Steve, le gars était connecté, blindé de connexion. Tout le monde comprend ce soir? Sûrement, il y a des hommes et des femmes autour de vous en ce moment que peut-être vous ignorez. Et ignorer les hommes et les femmes qui vous entourent peut être un risque énorme. Vous risquez de passer à côté d'un portier ou d'une femme, d'un homme capable d'ouvrir une porte pour vous. Aïe, 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 aïe. Alors, je me suis repenti aujourd'hui plusieurs fois. J'ai Seigneur, pardon. C'est tellement facile d'éviter les gens. C'est comme ce pasteur-là qui explique ce témoignage. Il dit un jour, il est à l'église. En fait, l'histoire a changé. Je me suis trompé d'histoire. J'ai mélangé deux histoires. C'est la vraie histoire. Il est en vacances et il dit à sa famille, on va à l'église. Et donc, ils disent, ok, on va à l'église. Et il sort de l'hôtel et demande au gars préposé au parking, excuse-moi, là, je vais à l'église de tel pasteur, par où il faut que je passe? Et je lui fais, excusez-moi, monsieur, mais franchement, je ne pense vraiment pas que vous aurez le temps d'aller à l'heure pour cette église-là, vous êtes vraiment en retard. Par contre, il y a une église là, à deux rues d'ici, elle est vraiment excellente, vous allez adorer. Le pasteur fait, mais pour qui se prend le gars? Je suis le pasteur de l'une des plus grosses églises du monde, je sais quelle église me plaît. Mais en même temps, il a dit dans son cœur, après tout, j'ai rien à perdre, j'écoute ce gars-là. Et il va à l'église la plus proche. Et il devient ami avec le pasteur de l'église. Et le pasteur de l'église l'introduit à un éditeur qui a aidé ce pasteur-là à lancer son premier livre. Et son premier livre est devenu un best-seller dès le premier bouquin. Tout est arrivé à cause du portier qui a littéralement conduit ce pasteur-là dans la bonne église. Et pas dans l'église qui n'aurait emmené nulle part. C'est-à-dire écouter son cœur, il serait dans la grande église qui n'aurait peut-être qu'un bon moment, mais sans plus. Et là, il est parti dans une église que Dieu a emmené un gars, Dieu a emmené un portier, lui dire pas là-bas, là-bas. Et en écoutant ce gars-là, son livre a été édité et ça l'a propulsé au rang d'homme de Dieu le plus connu de la planète. Mes chers frères et sœurs, Dieu ne te demande pas à toi et à moi de forcément toujours vouloir fréquenter les plus grands de ce monde en espérant que ce soit eux qui donneraient la promotion. Pas forcément. C'est peut-être la repasseuse qui connaît la repasseuse du maire. Parce qu'en général, écoute bien ça, c'est très très puissant. Peut-être que toi, tu ne connais pas le maire directement, mais tu connais sa repasseuse. Moi, je ne connais pas le maire directement, en tout cas celui-là, je sais l'ancien, maire du tampon, mais je connais bien le chauffeur. C'est à vous aussi. Jim aussi, on connaît le chauffeur, c'est lui qu'il faut qu'on bloque. Commencez à voir la vie différemment. Arrêtons de vouloir mesurer les gens avec leur statut social, ou même leur richesse, ou même leur talent. Dieu veut que nous traitions tous les hommes et les femmes autour de nous comme des portiers spirituels capables d'ouvrir notre porte sur la destinée. Amen. Prions ce soir. Seigneur, en ce moment, je sais que tu m'amènes, donc pasteur, avec l'équipe, avec Steve, avec les pasteurs de l'église ici, à amener des messages qui font comprendre à l'Église combien les relations sont importantes. Et à mon humble avis, Seigneur, tout commence par notre façon de voir les gens. Ce soir, je prie pour que l'Église d'Hosanna ne tombe pas dans le piège de croire qu'on est les meilleurs, supérieurs, les plus grands, les plus forts. Que d'un côté, Seigneur, on soit vraiment reconnaissant de ce que tu nous donnes. On a une bonne Église. Une Église qui grandit, une Église qui commence à avoir un impact, mais qu'en même temps, Seigneur, jamais cet impact, cette croissance ne puisse nous aveugler à un point, Seigneur, où nous cessons de voir les gens que tu as placés dans notre vie comme des portiers spirituels pour nous, mais aussi nous sommes pour eux des portiers spirituels. Apprends-nous à voir
chez l'un et chez l'autre, les dons, les talents, l'appel que tu as mis. Apprends-nous à voir chez l'un et chez l'autre le potentiel que tu as mis en nous. Je te rends grâce ce soir parce que tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu glorieux. Et maintenant même, Seigneur, je prie pour ces merveilleuses personnes qu'elles puissent comprendre ce message simple. Au combien profond. Car tu m'as clairement dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup d'hommes et de femmes qui ont raté et qui ont retardé la progression spirituelle, la promotion spirituelle, parce que nous avions à l'époque méprisé ou ignoré des hommes et des femmes que tu avais placés à nos côtés ou dans notre vie. Alors ce soir, Seigneur, personnellement, moi, je me repens. Que tous ceux et celles qui se repentent aussi puissent mettre la main sur le cœur ce soir. Si vous savez que ce message vous concerne, je ne vais pas en faire un show émotionnel, je veux simplement vous encourager à être franc avec Dieu, dire « Seigneur, moi je me reconnais ». Et si maintenant même vous savez, vous vous rappelez du nom de la personne, si vous savez, si le nom vous revient, le visage vous revient, quelqu'un que vous avez méprisé, vous ne savez pas si c'est un portier, mais c'est quelqu'un que vous avez ignoré, méprisé, mis de côté, pour rien. Parce qu'il n'est pas dans ton moule, dans ton sang, dans ta façon d'être. Et bien, pose ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Et fais tout pour restaurer au moins la communication avec cette personne-là. Écris son nom, si possible. Écris son nom et restaure le pont du passé. Simplement, dis pardon. Tu sais, à l'époque, j'étais ignoré, j'étais méprisé. À l'époque, je n'ai pas compris tes intentions. Je ne sais pas, mais allez lui parler. Appelez-la, appelez-le. Allez lui dire en face. Et restaurez cela ce soir. Seigneur, tu vois toutes ces mains sur les cœurs. Moi, le premier. Il y a des gens qui ont souffert à cause de nous. Il y a des gens qui ont été blessés à cause de nous. Il y a des gens qui se sont sentis méprisés à cause de nous. On les a ignorés ou évités. Seigneur, pardonne-nous ce soir. Car Hosanna, nous puissions toujours dire, nous sommes des hommes et des femmes qui aiment. Et qui pense d'abord à l'autre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, en préparant ce message aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était tellement facile, c'est extrêmement facile d'ignorer ceux et celles que Dieu envoie parce qu'ils ne correspondent pas à nos attentes. Un jour, j'étais avec mon papa sur un chantier. Et il me dit, viens, on va voir le voisin là, et je vais le voir avec lui. Et le voisin est habillé avec un chapeau de paille, style chapeau de paille, un t-shirt très sale, déchiré partout, un short bermuda sale, et des savates sales. Genou droit sale, genou gauche sale, mollet droit sale, mollet gauche sale, tout était sale. Je regarde comme ça, et je dis, waouh. Puis on dit bonjour, il parle un petit peu, moi je suis là, j'attends, et on repart. Et je fais, ce monsieur-là, franchement, il faut vraiment l'aider. Hein. Il doit galérer financièrement. Mon père me dit, tu rigoles ou quoi? Tu vois, de la montagne là-haut jusqu'à la mer là-bas, tous les terrains sont à lui. Je fais, d'accord. Et ce gars-là, moi, si j'étais pas mon père à mes côtés, j'aurais dit, ouais, c'est un petit planteur. Comme un jour... Non, ça va, je vais passer à autre chose. En tout cas, ne méprisez pas les gens. Je rigole parce que c'est une histoire marrante. Mais je ne vais pas la dire parce que le gars est dans la salle ce soir. Si je le dis, le gars va me flinguer. Alors je vous dirai quand il ne sera pas dans la salle. Non, je rigole. Combien ce soir vous avez compris ce message très très simple? Et quand je dis compris, c'est que vous allez passer à l'action ce soir avec moi. Vous allez aller restaurer un pont du passé, quelqu'un... Vous savez, c'est pas que vous devez chercher à savoir, c'est que là, ce soir, en parlant comme ça, vous vous dites, ah ouais, lui, ah peut-être elle, ah lui, peut-être lui. Et en faisant ça, je vous promets que devant Dieu, on peut avoir un impact énorme. Amen. Ce soir, j'ai sur le cœur de vous lâcher tôt. C'est la fin de l'année, il y a eu une période scolaire chargée, je sens que beaucoup sont fatigués, mais je vous encourage à ne pas rater les célébrations en ce moment, à venir nombreux, à venir prier avec nous, à venir adorer le Seigneur. Je suis heureux de voir tes amis, Stéphane. Bienvenue à nouveau. C'est cool de te voir, de les voir. Tu sais, tes amis, eux, tu vois. Hop, hop.
Je suis heureux de voir Jean-Charles, son épouse. Re-bienvenue par rapport à ce matin. Bon vous voir. J'aimerais, avant de prendre l'offrande ce soir, vous partager un témoignage qui m'a beaucoup touché. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Avez-vous entendu parler de Rick Warren? Qui connaît Rick Warren? Okay. Rick Warren est un homme qui a écrit quelques livres, dont un qui n'est pas beaucoup connu. Rick Warren a écrit The Purpose Driven Life. En français, ça donne une vie, une passion, une destinée. Une vie, une passion, une destinée. C'est un livre forcément à posséder. La plupart des passages jaloux disent non, mais moi je vous dis oui. Prenez ce livre-là. Écoutez bien ça. Ce livre-là, c'est le best-seller, le livre le plus vendu juste après la Bible. De tous les temps, après la Bible, ce livre-là, c'est le livre de Rick Warren, Une vie, une passion, une destinée. Écoutez bien ça. Aïe, aïe, aïe. Cet homme-là, Rick Warren, et sa femme, depuis le début du livre, quand ils ont commencé à sentir que le livre allait être un succès, écoutez bien ça, un succès planétaire, ils ont vu les ventes exploser, ils sont réunis le soir, ils sont bien genoux devant Dieu, ça me touche beaucoup ça. Rick Warren a dit, Seigneur, nous allons inverser la tendance. Plus jamais on vivra avec 90%. Seigneur, c'est l'inverse. 90% de tout ce qui va rentrer, c'est pour toi. On va vivre avec 10%. Depuis le départ de la vente du livre, ils ne savaient pas, c'était des milliards. C'était des milliards, bien sûr. Et ils ont donné 90% depuis le début des ventes, par la foi, à Dieu, en disant, nous vivrons que sur 10% de ceux qui rentrent. Ça, souvent, je me dis, comment je peux arriver à ce niveau-là? Et l'idée, ce n'est pas de dire, je donne ce soir 90%, c'est de vous dire, est-ce que ça vous dit ce soir avec moi de prendre la décision, à part ceux qui sont encore en train de galérer sur les 10%, tout ça, ça c'est, bon, franchement, si vous n'avez pas encore compris que Dieu veut toute votre vie, on priera pour vous. Mais la vérité, c'est que Dieu commence par un point de départ, qui sont les 10%? Il aurait pu dire, donne-moi tout. Il aurait pu dire dans la parole de Dieu, quand tu donnes ton cœur à Jésus, je prends tout directement. Non, il a dit, commence par ce que tu veux donner. Moi, ce soir, je vous propose, en tant qu'église, et M. Mandos, Alain, notez ce qui suit, s'il vous plaît, dans vos cahiers, dans vos livres, c'est le trésorier de l'église. Chaque année, on va augmenter ce que nous donnons dans le monde. Je parle là aux pauvres. On va commencer à mettre un pourcentage cette année, Alain, tu sais, aux églises pauvres, aux gens qui les pauvres dans les églises, dans le monde entier, les églises pauvres. Et chaque année, on va augmenter. De 1%, de 0,5%, de 2%, on verra ce que Dieu va nous dire. Mais lui, cet homme-là, ce pasteur-là, Rick Warren, écoutez bien ça, Rick Warren, depuis le départ, il a dit à sa femme, chérie, on se marie. On commence par donner 10%, mais chaque année, on va augmenter de 1% la 10 000 offrandes. Chaque année. C'est immuable, c'est comme ça. Tant que tu seras marié avec moi, ça sera comme ça. Et il dit dans son témoignage, il dit qu'il y a des gens qui galèrent, et il encourage les membres de l'église à dire, cette année tu donnes 10%, l'année prochaine donne 12 au Seigneur. L'année après 15, et puis 16, et puis 20, et tu vas voir, et si tu as la foi vraiment, que Dieu va augmenter tes ressources. Comment il le fait, je ne sais pas. Et le Dieu et moi, on a vu notre vie bénie. Quand j'ai commencé le ministère, je touchais 300 dinars, c'est ça? 300 dinars, enfin francs. 300 sesterces. 2 drachmes. C'est pas comme aujourd'hui où les jeunes pasteurs commencent et il y a un là. Ils commencent avec 1200 euros, 1500 euros, téléphone, voiture, fonction, appartement, vue sur la mer, piscine, dauphin dans la piscine. Non. Il n'y a pas tout ça quand on commence. Elle lui dit à sa femme, on va aller de pourcent en pourcent. Et il a prié un jour et quelqu'un lui a demandé, mais comment ça se fait que votre livre soit le plus acheté dans le monde? Et il dit, je ne sais pas. Il dit, franchement, je suis surpris que Dieu m'ait demandé à moi d'écrire ce livre-là. Et là, quelqu'un lui a dit, c'est parce qu'il savait que tu étais totalement détaché de l'argent qu'il a fait de ton livre le best-seller le plus vendu après la Bible. Parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur toi pour donner 90% des bénéfices au monde. Et avec ces millions qu'il a fait, il a remboursé tout ce que l'Église lui avait donné comme salaire depuis qu'il était pasteur. Et il a arrosé des centaines d'églises et des centaines d'églises. Et chaque année, lui-même, Rick Warren, avec ses dividendes d'écriture, il construit des églises dans le monde entier. Parce que les gens ignorent ça. Mais moi, ce qui me parle ce soir, c'est que c'est quelqu'un qui a commencé depuis le départ en disant, 10% n'est pas le but, 10% c'est le point de départ. Et c'est là où on passe du stade « je donne parce qu'il faut que je donne » et « je donne parce que ma vie appartient à Jésus ». Et j'ai remarqué, franchement, Hosanna est béni, on est béni, on passe tous les mois, c'est pas facile tout le temps, mais on passe tous les mois. Mais j'ai remarqué que dès qu'on parle d'argent dans la vie d'un chrétien, on dit « t'es une secte, il y a un problème, il y a un souci, tu sais, non, hey, c'est bizarre ». On parle de prière, alléluia. On parle de problème, alléluia. On parle d'argent, pas alléluia. Ce soir, je propose une chose, frère et sœur, une chose très simple. Donnez comme votre cœur a choisi de donner. Mais engagez-vous devant Dieu en disant, Seigneur, tu sais quoi? Au fur et à mesure, j'aimerais augmenter, même d'1%, même de 3 euros. C'est pas, ce qui compte, ce n'est pas du tout là que tu te ruines. Non, ce qui compte, c'est que tu dis, Seigneur, tu sais quoi? En ce moment, je donne 100 euros par mois. Mois prochain ou l'année prochaine, je vais donner 105 euros par mois. Et tu commences comme ça. Et si tout le monde augmente, on devient une église non plus qui donne sa dîme, mais une église généreuse, une église extravagante, une église qui donne parce qu'elle a envie de bénir l'œuvre de Dieu. Et ce gars-là, Rick Warren, il est ultra béni parce qu'il a commencé au départ en disant « Je vais donner 90% des dividendes de mon livre. » Question ce soir. Si vous lancez une entreprise, vous commencez l'entreprise et vous dites au Seigneur « Je donnerai 90% de mes bénéfices au Seigneur. » Ne levez pas la main, mais qui serait prêt à le faire? Parce que lui, il écrit son bouquin, il le met en vente et il dit « Je donnerai 90% de mes ventes au Seigneur. » Wow! Et tout d'un coup, ça devient le best-seller, parce que Dieu sait qu'il pouvait lui faire confiance. Moi, j'aspire à ça. Hein, chérie? Que toi et moi, on vit dans une petite tente, putain des neiges, avec 1 euro par jour. On sert Dieu, mais on donne 3 millions de dollars tous les jours aux pauvres. Moi, c'est mon rêve. Mon rêve, c'est qu'un jour, l'église Hosanna n'ait plus à payer ni Steph, ni moi, ni les pasteurs, et que nous puissions avoir tellement de pesetas. Donc, si vous voulez donner à Steph et moi des pesetas, si vous voulez nous aider à construire des entreprises, des choses qui vont avancer, pas pour nous, franchement, non. Ce qui compte ce soir, ce que vous et moi, nous vivions avec la perspective de l'éternité. Quand je serai au ciel un jour, je vais entendre mon Père Céleste dire « Ah, voilà mon fils, bon et fidèle serviteur. Tu as fait tout ce que tu devais faire. J'ai donné 5 talents, tu les as multipliés. J'ai donné 3 millions d'euros, tu les as partagés comme tu le devais. T'as gardé 300 000 pour toi, ou 200 000 pour toi, ou 20 000 pour toi. T'as donné le reste, je suis fier de toi, c'est pour ça que je t'avais béni. Je suis content que tu aies compris mon cœur. Waouh, rentre dans la joie de ton maître. C'est ça que je veux entendre, c'est ça que je veux entendre. Le reste, ça ne sert à rien. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est quand tu commences à donner, Dieu te donne. J'étais cette année extrêmement béni à un tel point. Vous savez, il y a des fois, tu attends Noël en disant... Cette année, une année dure que moi, à Noël, j'aurai un cadeau. Cette année, moi, j'ai pas envie. J'ai envie de dire à ma chérie, tu vois le cadeau que je veux voir, donne-le à un pauvre. Donne-le à quelqu'un d'autre. J'ai besoin de rien maintenant. J'ai plus besoin de rien, frères et sœurs. J'ai besoin de la présence de Dieu, c'est tout. J'ai plus besoin d'avoir des choses dans ma vie. Je suis béni, j'ai une femme extraordinaire, j'ai des filles extraordinaires, j'ai une église extraordinaire. Le reste, c'est du pipeau. Si on donne 1 million, content, pas million, pas content, c'est pareil. Pour moi, ça change rien. 1 million, 0 euro, ça ne change rien. L'argent que je vais recevoir, le Seigneur, si tu me bénis, c'est pour bénir les autres. Je suis pas contre qu'on ait des fringues et des... Vélo, j'adore tout ça, c'est super, j'adore tout ça. Les montres, c'est bien, il faut garder beaucoup de montres. Mon point, c'est, il y a un moment dans notre vie, il faut savoir dire, Seigneur, est-ce que je ne suis pas en train de trop me bénir par rapport à ton royaume? Est-ce que vraiment, Seigneur, je pense à toi? C'est ça la vérité cette année. Pour Noël, je dis à ma chérie, mes filles vont être gâtées, c'est super, c'est bien, mais pas au détriment de l'œuvre de Dieu. Pas au détriment de l'œuvre de Dieu. Parce que si mes filles font passer l'œuvre de Dieu après leur propre cadeau, c'est que l'échelle de valeur n'est pas bonne. Dieu passe avant. Je dis Dieu passe avant. Donc ce soir, on passera les paniers, s'il vous plaît. On aura 2 paniers, offrande et la dîme. Et les grandes commissions qui est une pièce de 2 euros ou plus pour ceux qui peuvent, qu'on met sur un compte et le jour où on va planter les églises, on va se servir de cela pour implanter les églises, frères et sœurs. L'année prochaine, Alain, si tu permets, on va mettre un... Je ne sais pas si on peut faire ça, je ne sais pas si c'est possible. On mettra une caisse à part et on va mettre de côté de l'argent. Pareil pour potentiel, Steve, si possible. On mettra de côté de l'argent, des sommes qu'on pourra, pour acheter des centaines de cadeaux aux enfants défavorisés d'une ville ou d'un pays que Dieu nous montrera. Ça peut être l'Inde, ça peut être Madagascar, ça peut être ce qu'on veut. On verra. Cette année, par la grâce de Dieu, on va donner 100 cadeaux ici à La Réunion. Mais Dieu m'a clairement montré qu'il fallait qu'on prenne soin des pauvres. Comme disait l'expasseur Steve, il faut qu'on prenne soin des pauvres. Et l'année prochaine, on va trouver une stratégie pour qu'il y ait un pourcentage de tout ce qui rentre dans l'Église qui ira directement pour les pauvres. Comment on va faire? Je ne sais pas encore, Alain. Il faut une solution, parce que la loi française est totalement à côté de la plaque. La loi française fait tout pour que l'Église reste dans l'Église. Et si l'Église fait du social, c'est pas légal. Donc c'est pour nous très galère, mes amis. Je vous dis franchement, c'est pas facile tous les jours de naviguer entre les lois françaises pour être vraiment, vraiment carré tout le temps. Et nous sommes audités, nous avons des commissaires aux comptes, nous avons experts comptables, nous avons des juristes qui vérifient nos comptes tous les ans. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais mon cœur avec Steve, c'est de dire, attends, il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir être l'Église qui brille dans les ténèbres, qui aide les gens. Et ce Noël, cette année, on a vraiment envie de vous encourager. Allez voir quelqu'un qui n'a rien. Rien. Cette semaine, j'irai avec mon épouse et mes filles, on va acheter des cadeaux pour des enfants qui n'ont rien. Allez voir une voisine, un voisin, vous le savez qu'ils n'ont pas grand-chose, moins que vous, et partagez. Hein? Non? Partagez. C'est un mot qui est magnifique. Dis avec moi, dis partagez. Dis je partage. Tu partages. Nous partageons. C'est beau, vous avez vu? C'est un beau mot. Partage. C'est un des mots que Dieu préfère, avec donner. Ce soir, Seigneur, nous te prions pour les offrandes de ce soir. Seigneur, l'Église, Hosanna, a besoin, vraiment, vraiment besoin d'un miracle ce soir. Pas un miracle financier, non, alors là, Seigneur, un miracle de cœur. Un miracle qui dit, Seigneur, je refuse que les choses matérielles prennent l'ascendant sur ma vie spirituelle. Je veux pas, Seigneur, me dépouiller pour ne plus avoir rien. C'est pas ton cœur, Seigneur, mais je veux te faire comprendre. Je veux te montrer, Seigneur, que tu passes avant. Que ton royaume passe avant. Apprends-nous ce soir à équilibrer notre budget. Aide-nous à faire les bons choix. Afin que réellement, réellement, les choses qui comptent vraiment puissent être à la première place. Apprends-nous à garder les premières choses à la première place. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Amen.